Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Merci d'être avec moi ce matin pour répondre à mes questions. On a bien besoin de vos lumières pour essayer de comprendre. On a l'impression de vivre au jour le jour chaque dernier événement et d'avoir un peu du mal à s'extraire aussi justement de ce jour le jour pour comprendre qui a l'avantage et combien de temps est-ce que ça peut durer. Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Votre dernier livre qui était paru en 2025, c'était justement la question israélienne aux éditions de l'Observatoire. Vous aviez aussi écrit sur la future guerre qui serait la guerre en Iran. On est dedans. Cette nuit, d'abord, effectivement, parce qu'on veut aussi comprendre ce qu'il se joue, ces explosions, ces images d'explosions dans le ciel au-dessus de Téhéran, des images, semble-t-il, de défense aérienne, sauf que Israël et les États-Unis disent on n'a rien à voir, nous n'avons rien envoyé cette nuit au-dessus du ciel de Téhéran. Qu'est-ce que ça peut bien être ?
Écoutez, il est tout à fait possible, effectivement, que ce soit des défenses anti-aériennes qui aient été déclenchées par crainte d'une attaque, que ce soit une fausse attaque ou quelque chose d'autre. Je serais très étonné que les Israéliens ou les Américains aient procédé à des attaques qu'on appelle des attaques cinétiques, c'est-à-dire des attaques aériennes, alors que le cessez-le-feu est censé être respecté et qu'ils disent non, c'est pas nous. Je serais surpris. Je peux pas vous dire, je peux pas vous en dire plus.
Ça veut donc dire que potentiellement, c'est quoi? C'est un bluff?
Je ne sais pas.
Pour tester leur propre défense aérienne. Est-ce qu'ils en ont encore, d'abord, des défenses anti-aériennes?
Je pense qu'ils en ont encore, mais cela peut être aussi un drone ou ce qu'on pense être un drone. Franchement, je ne peux pas vous en dire plus.
Et effectivement, on sent qu'il y a aussi une sorte de guerre de l'image, de part et d'autre. Chaque jour, on reçoit des nouvelles images qui sont envoyées de l'un ou de l'autre, y compris de ces abordages de bateaux. Au moment où l'on se parle, qui a l'avantage?
Alors, ça dépend si on se place du point de vue militaire ou du point de vue politique, mais je vais vous dire, le plus important, à mon sens, c'est que je suis absolument persuadé que les deux parties sont elles-mêmes persuadées d'avoir l'avantage. Et c'est une des raisons pour lesquelles mettre un terme à tout cela est extrêmement difficile. Lorsque vous êtes persuadé que vous avez l'avantage, mais que l'autre partie est persuadée qu'elle a l'avantage également, lorsque vous êtes persuadé que l'adversaire va s'épuiser le premier et que l'autre, l'adversaire, est aussi persuadé que c'est vous qui allez vous épuiser.
Donc on est aussi dans cette guerre de l'image, communication.
Mais ça c'est autre chose. Non, je pense pas que ça a à voir avec la guerre de l'image. Je pense que les deux parties sont sincèrement persuadées, chacune de son côté, qu'elle a l'avantage. Qu'il y ait une guerre de l'image, de la communication par-dessus, évidemment.
Alors, c'est le lot de tous les conflits modernes. Quels sont les avantages sur lesquels peut s'appuyer l'Iran, ou les faits sur lesquels l'Iran pourrait s'appuyer pour se dire, allez, on tient, on a l'avantage? Et quels seraient les faits, ou je sais pas, le nombre de missiles, l'organisation, la stratégie, la tactique qui pourrait permettre à Donald Trump de penser que c'est lui qui a l'avantage?
Alors, c'est pas forcément en termes de nombre de missiles. Ça se joue dans la tête. Et du côté iranien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que cela fait bientôt 2 mois que l'Amérique est engluée dans un conflit qu'elle a choisi et qu'elle pensait régler un petit peu à la manière de Vladimir Poutine. D'ailleurs, on peut faire des parallèles intéressants entre les deux conflits. Elle voit une Amérique qui est engluée, qui n'a pas atteint ses objectifs. Elle voit que la partie iranienne, elle tient. Non seulement elle tient, mais quelque part elle se consolide aussi, ou en tout cas en apparence, le pouvoir au sens politico-militaire du terme est non seulement ne s'est pas effondré, mais tend plutôt à se renforcer. Elle voit aussi les dommages pour l'économie mondiale, y compris pour l'économie américaine. Donc l'Iran se dit, moi, je suis plutôt dans une bonne position. En tout cas, je suis persuadé qu'un certain nombre de personnes dans le leadership iranien voient la situation
comme cela. Les deux sont-ils aussi déterminés? Puisque vous disiez que c'est aussi ça.
Oui, c'est aussi cela, parce que la guerre, c'est une affaire de volonté, et ça se joue souvent à qui craquera le premier. Moi, je dis souvent que dans ces conflits qui durent, c'est souvent non plus une épreuve de force, mais une épreuve de faiblesse, à savoir que quelle est la partie qui va craquer la première. Du côté américain, vous savez, Trump, avec son mode de fonctionnement très particulier, est probablement lui aussi sincèrement persuadé qu'il a l'ascendant, que c'est simplement une question de jours, de semaines, que de toute façon, le régime va forcément craquer à un moment ou à un autre. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'on pense, dans toutes les composantes du pouvoir américain, c'est pas forcément ce qu'on pense au département d'État ou ce qu'il en reste, ou au Pentagone. Mais en tout cas, Trump et ceux qui l'entourent sont probablement persuadés eux aussi qu'ils ont l'ascendant et que le régime va craquer.
La question de ce régime, on apprend ou on a davantage de détails sur l'état dans lequel serait le nouveau guide suprême, semble-t-il extrêmement affaibli et blessé, au minimum, s'il est encore conscient. Qui dirige l'Iran aujourd'hui?
On va dire que c'est une caste essentiellement militaire, mais pas seulement, et que comme c'était tout à fait prévisible et prévu, un certain nombre d'entre nous l'avaient écrit d'ailleurs, qu'en cas d'attaque majeure contre l'Iran, les gardiens de la révolution prendraient naturellement l'ascendant sur le reste. Mais en tout état de cause, moi je ne connais pas l'état de santé du guide suprême, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus de personne d'arbitre suprême. La fonction d'arbitre suprême, c'était celle du père du guide actuel, qui lui était respecté et jouait justement son rôle d'arbitre entre les différentes composantes
Il est officiellement guide suprême, mais dans les faits, il est guide, mais pas vraiment suprême, quoi.
Oui, c'est une très bonne formule, mais j'irai plus loin. Une des raisons pour lesquelles tout ceci dure longtemps et malheureusement, à mon sens, va encore durer, c'est que à la fois du côté iranien, mais aussi du côté américain, les systèmes de décision sont complètement dysfonctionnels. Ils ne marchent plus comme ça marchait avant. En Iran, on vient d'en parler, il n'y a plus l'arbitre suprême qui pouvait permettre de prendre des décisions relativement rapidement, ou en tout cas, lorsqu'elles étaient prises, eh bien, elles étaient appliquées par le système. Et du côté américain, c'est dysfonctionnel pour des raisons complètement différentes. Mais vous voyez bien
que la décision à 11h est pas forcément celle de 11h15.
Exactement.
Quoi.
Donc le fait que des deux côtés le processus de décision soit dysfonctionnel ne contribue pas à ce qu'on puisse raisonnablement arriver à des points d'équilibre, au moins pour un cessez-le-feu durable. Et si ce n'est, évidemment, encore moins pour un apaisement du conflit.
Avec évidemment des conséquences aussi sur la capacité ou non à négocier, c'est-à-dire à prendre des décisions, à les faire ensuite appliquer dans la durée. Mais encore un mot sur la nature du régime. Si je vous entends bien, au fond, il y a eu une sorte de vase communicant entre un régime qui d'abord était religieux vers un régime qui aujourd'hui, dans les faits, est plus militaire.
Oui, mais ça date déjà d'il y a une bonne dizaine d'années. On a vu l'évolution de ce régime, j'allais dire ce militarisé de plus en plus depuis déjà une bonne dizaine d'années. Les gardiens de la révolution, ils sont non seulement importants sur le plan militaire, ils sont aussi importants sur le plan économique. Ils ont pris une place dans l'économie du pays, un petit peu d'ailleurs, parce que moi j'aime bien faire des analogies, un petit peu d'ailleurs comme l'armée populaire de libération en Chine a été devenue centrale dans la manière dont l'économie fonctionnait dans les années 2000-2010.
Donc on était moins sur la politique dans ces cas-là que sur effectivement la répression, la sécurité. Est-ce que ça a un impact aussi pour la population iranienne? Ou est-ce que de toute façon c'était déjà l'horreur et ça va continuer à l'être?
Malheureusement, je crains que la population iranienne pour l'instant, elle se terre, elle n'est pas en capacité de se révolter, contrairement à ce qu'espéraient sans doute les Israéliens notamment, et c'est pas qu'elle compte les points, ça serait un petit peu léger de dire cela, mais elle n'est pas en capacité de jouer un rôle majeur aujourd'hui. Lorsque l'apaisement viendra, parce qu'il viendra tout de même un jour, comment est-ce qu'elle en ressortira? Est-ce qu'elle voudra d'abord survivre? Oui. Est-ce qu'elle voudra ensuite se révolter? Ça n'est pas totalement certain. Encore une fois, quand vous êtes dans ce type de situation, votre première priorité, c'est la survie.
Bruno Tertrais, vous disiez tout à l'heure, je pense que ça va durer. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Encore une fois, que les deux parties n'ont pas la sensation, le sentiment d'être en situation d'infériorité. Et par ailleurs, que les lignes rouges exprimées en tout cas publiquement lors des fameuses négociations, en tout cas des discussions d'Islamabad il y a deux semaines, eh bien les lignes rouges sont tellement éloignées des deux côtés que on ne voit pas le moment où ça pourrait se rencontrer, où il pourrait y avoir un minimum de compromis. Autrement dit, je ne vois pas aujourd'hui le point d'équilibre possible pour une sortie de crise.
Bruno Tertrais, il y a quand même une sorte de deadline. Si elle n'est pas effectivement donnée par les différents protagonistes eux-mêmes, elle est peut-être donnée aussi par l'économie. Pendant ce temps-là, le pétrole ne sort pas du détroit d'Ormuz.
Et tout le reste ne sort pas non plus.
Et n'y rentre non plus. Ça veut dire que c'est quand même extrêmement compliqué aussi pour les pays qui sont de l'autre côté de l'Iran, c'est-à-dire notamment les pays du Golfe. Je voudrais qu'on puisse en dire un mot, parce que on a quand même l'impression presque que là, désormais, ils sont comme rayés de cette carte stratégique. D'abord sur la question du pétrole iranien, ce blocus du blocage, le blocus global imposé par les États-Unis, est-ce qu'il est efficace. On parle d'une vingtaine de jours qui restent à l'Iran avant de toute façon se retrouver avec une incapacité à stocker son propre pétrole et donc à être complètement bloqué. Est-ce que vous avez la même analyse ?
Alors, un rappel quand même, vous pouvez quand même sortir d'Iran si vous restez dans les eaux territoriales iraniennes, tout près de la côte, et aller jusqu'au Pakistan, qui est plutôt un pays qui a des relations cordiales avec l'Iran. Ça, ça fait pas partie du blocus. Moi, je ne sais pas quel est le point de rupture des Iraniens. Ce que je sais, en revanche, c'est que les Américains ont sous-estimé la capacité de résistance, de résilience de l'Iran. Maintenant, si vous en venez à la question des deadlines et des dates butoirs, pour moi, il y en a au moins deux, tout de même. La première, c'est le 2 mai, lorsque théoriquement, Donald Trump devrait avoir l'accord du Congrès pour continuer l'opération.
C'est les 60 jours.
Militaire, voilà, on en sera à 60 jours. Et ça, vu que dans le camp républicain, ça commence à râler un petit peu, eh bien, il n'est pas impossible que ça ait des effets politiques à l'intérieur et que donc, autour de Donald Trump, on finisse par lui dire, vous savez, monsieur le président, de s'arrêter ou au moins d'avoir un cessez-le-feu durable. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, puisque vous parliez de l'économie mondiale, et vous avez raison de dire qu'il n'y a pas seulement le pétrole, eh bien, en gros, c'est à peu près le moment où c'est la dernière semaine où il est possible de faire sortir du Golfe tous les produits qui vont être nécessaires à la fabrication des engrais pour l'agriculture des pays d'Asie du Sud. C'est une question de saison. En gros, bah voilà, c'est la nature, hein. Si vous plantez trois arbres, c'est trop tard. Or, en Afrique, en Asie du Sud et ailleurs, on attend effectivement que ces produits puissent sortir pour que les engrais puissent être fabriqués, pour qu'on puisse planter assez facilement. À mon avis, Donald Trump s'en fiche totalement. Mais c'est pas totalement anodin pour ce que ça va dire sur
le reste aussi qui aura un impact parce qu'il faut très toujours important dire et durable.
Oui, et puis il y a aussi, on n'en parle pas assez, il y a aussi l'hélium. L'hélium qui sort du Golfe, c'est fondamental pour la production des semi-conducteurs, des petits qui font marcher à peu près.
Dans nos produits, dans nos machines, dans nos voitures.
Absolument partout. Donc plus le temps passe, j'allais dire, plus les conséquences non pétrolières sont aussi importantes, voire plus importante pour l'économie mondiale.
Je voudrais quand même vous reposer une question sur ces bateaux qui peuvent quand même longer la côte iranienne. Parce qu'au fond, c'est quand même une faille dans le blocus. Il y a une trentaine de bateaux qui seraient quand même sortis de l'Iran en longeant les côtes.
Écoutez, le nom, je n'en sais rien. Je sais que c'est techniquement possible, que certains bateaux en ont profité, mais l'essentiel n'est pas là. Pauline de Malherbe, l'essentiel, c'est que le trafic est très, très, très loin.
Très ralenti par rapport à ce qu'il était avant, ralenti, évidemment. Voilà. Et la question des mines, Donald Trump qui hier a dit qu'il fallait accélérer la recherche de ces mines, concrètement, est-ce qu'on a la moindre idée de la réalité de ces mines, combien, comment, à quel endroit, et donc d'une accélération de ce déminage?
Alors, l'accélération du déminage, il est certainement pas là. Elle est certainement pas là. En revanche, ce qui est à peu près certain, c'est que la partie sud du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire la partie qui est dans les eaux omanaises, dans les eaux territoriales omanaises, et la partie dans laquelle il y a les chenaux de passage traditionnel des navires qui sortent du Golfe Persique, c'est cette partie-là qui est minée, forçant les bateaux à aller vers la partie nord et donc vers les eaux iraniennes qui sont plus faciles, bien sûr, à contrôler par les Iraniens. Alors, les capacités de déminage américaines, de toute façon, sont très limitées. Et lorsque les Américains disent « Nous avons besoin de vous, Européens », c'est pas simplement, du théâtre. C'est aussi parce que certains pays européens, y compris des petits pays, par exemple l'Estonie, pour des raisons compréhensibles, l'Estonie voisin de la mer, qui donne sur la mer Baltique, il y a des pays européens qui ont des capacités de déminage très importantes. Mais attention, les Européens n'iront pas, tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu durable et contrôlé, n'iront pas aider à la circulation dans le détroit d'Ormuz.
Il faudrait d'abord qu'il y ait ce cessez-le-feu. On va parler du Liban, bien sûr, mais je voudrais qu'on dise un mot de ces pays, effectivement, qui sont donc de l'autre côté, dont on parlait beaucoup au début parce qu'ils étaient notamment ciblés par l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, donc Dubaï, Oman. L'Iran qui continue quand même à dire que si les hostilités reprenaient de manière effective, leur cible, ce serait moins Israël que ces pays-là et le pétrole de ces pays-là. Ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui, ces pays-là? Ils se retrouvent entre deux feux?
Alors, ils sont entre deux feux, bien sûr, mais ça dépend des pays. Il y a des pays qui disent, maintenant, l'Iran nous a trop posé de problèmes, et c'est un euphémisme, il faut en finir avec ce régime. C'est par exemple le cas des Émirats Arabes Unis, avec lequel, d'ailleurs, Israël a plutôt des bonnes relations. Du côté de l'Arabie Saoudite, qui est la puissance dominante de la péninsule, c'est plus compliqué. Parfois, les Saoudiens ont poussé Donald Trump à l'apaisement. Donc, on peut pas dire qu'il y a une position unifiée des pays du Golfe. Ce qui est certain, c'est que, leur capacité de production et de raffinage d'hydrocarbures, de gaz et de tous les produits dont nous parlions, ces capacités sont très sérieusement endommagées. Il faudra des années, plusieurs années, pour qu'on en revienne à la normale, même si demain c'était le conflit.
Oui, même si demain tout était fini, tout le monde signait la paix, non.
Les conséquences sont dures. Alors, la paix, pardon, je vous reprends sur le terme de paix, ça ne sera pas un accord de paix. Au mieux, ça sera un accord de vivre ensemble.
Est-ce que ça veut dire qu'on se retrouve, Bruno Tertrais, dans cette zone ni guerre ni paix?
Oui, parce que je crois que tant que ce régime existera au nord, c'est-à-dire le régime iranien, il ne pourra pas y avoir de paix avec non seulement avec l'Arabie Saoudite, Israël, mais aussi les États-Unis. Il faut quand même toujours rappeler quelque chose de très simple. C'est un régime qui s'est construit en 79-80 sur l'opposition aux États-Unis
au
et à Israël. Oui, voilà. Donc tant que le régime sera là, la paix entre guillemets ne sera pas possible. Juste un deuxième point sur les pays de la péninsule arabique. Il y a autre chose. Ils ont vu leur modèle économique qui était basé sur leur attractivité, à la fois pour l'investissement, le commerce et le tourisme, sans compter les influenceurs, les influenceuses qu'on voit à Dubaï.
Et qui désormais, en fait, n'ont même plus le droit de filmer ce qui se joue.
Mais
c'est-à-dire
qu'on
redécouvre un modèle qui...
Alors, ce modèle-là est
mis... Il y avait un décalage quand même entre l'image et la réalité.
Oui, mais ce modèle-là, en toute cette cause, est mis en danger. C'est aussi pour ça que ces pays en veulent autant à l'Iran, davantage qu'aux États-Unis. Il faudra sans doute des mois, peut-être des années, pour que ce modèle soit remis sur pied. À mon sens, c'est pas la fin du modèle économique des pays du Golfe.
Il peut renaître.
Oui, je pense qu'il renaîtra.
Bruno Tertrais, le Liban et Israël, officiellement la trêve est prolongée, même si certains médias libanais parlent de bombardements qui auraient eu lieu ce matin, de frappes israéliennes qui auraient eu lieu à l'aube. Est-ce qu'on peut imaginer que les discussions vraiment puissent être fécondes entre ces deux pays?
Ce que je note en tout cas, c'est que c'est la première fois, et il faut saluer l'administration américaine, pour une fois ils font quelque chose de bien. C'est quand même la première fois que les Israéliens et les Libanais non seulement se rencontrent, mais aussi prolongent ces discussions. Et donc, il y a quelque chose qui a été enclenché et qui est peut-être irréversible. Pour la première fois, entre Israéliens et Libanais, on se parle directement en face à face avec juste les États-Unis qui invitent, si vous voulez, les parties à discuter. Donc, ça veut dire que des tabous ont été brisés. Ça veut dire que depuis, finalement, le choc de l'après 7 octobre, il y a une succession, un enchaînement d'événements qui font que, à mon sens, rien ne sera...
Suite du 7 octobre.
On est totalement dans les suites du 7 octobre. Toutes les guerres qui se déroulent aujourd'hui, c'est les suites du 7 octobre. Je ne pense pas que Benjamin Netanyahu aurait pu persuader le gouvernement israélien de frapper l'Iran au point où ça a été c'est le cas depuis 2025, donc à deux reprises, et d'en finir, parce que c'est ça que cherche Netanyahu avec le régime iranien, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. On est encore dans les suites du 7 octobre, bien sûr. Ouais.
Un mot encore sur le rôle de la France. Hier, le ministre des Affaires étrangères français parlait à propos de la mort de nos deux soldats de potentiels crimes de guerre, et pourtant on reste quand même plutôt spectateur. Est-ce qu'il y aurait d'autres options? Est-ce que la France pourrait à un moment ou à un autre agir davantage?
Alors, d'abord, elle n'est pas totalement sortie du jeu, si vous voulez. La France, dès qu'il se passe quelque chose d'important, elle peut agir au Liban de manière discrète, elle peut agir vis-à-vis des Américains de manière discrète. Le fait qu'elle ne soit pas à la table, parce que tout simplement les Israéliens et les Américains, les deux administrations actuelles aux États-Unis et en Israël, ne veulent pas de la France, ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas. Deuxièmement, le fait même que nos soldats soient tués,
on avait des soldats sur place.
Ça montre qu'on est là. Et surtout, on a dit que lorsque le mandat de la FINUL à la fin de l'année prochaine sera terminé, lorsque la FINUL n'existera plus...
En janvier 2027, normalement.
Janvier 2027, merci. Eh bien, la France continuera à être présente au Liban. La France n'abandonne pas le Liban et elle continue à le dire. Je crois que le fait qu'on ne soit pas présent à la table des négociations ne veut pas dire qu'on soit absent de l'ensemble de la scène libanaise, bien au contraire.
Merci beaucoup pour vos réponses, Bruno Tertrais, ce matin. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Votre dernier livre, La question israélienne, c'est aux éditions de l'Observatoire.